Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast La Parole aux orthophonistes. Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice, et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Parole aux orthophonistes. Et aujourd'hui, je reçois Audrey. Bonjour Audrey.
Bonjour Sarah.
Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices ?
Bien sûr, alors je suis Audrey Sayac. Je suis orthophoniste depuis, ça fait un petit peu plus de 2 ans. J'ai été diplômée en 2021 à l'école d'orthophonie de Nice. Et du coup, depuis, je suis installée au Canet, donc c'est pas loin du tout de Nice, c'est juste à côté. Et je travaille dans un cabinet avec actuellement une collègue, ce qui est super cool, parce qu'avant, je travaillais avec juste un podologue, donc c'était très très calme le cabinet. Là, c'est un peu plus cool, on est deux du coup. Voilà, en dehors de l'orthophonie, je fais de la musique depuis un très long moment. J'essaye de faire du sport en dehors du travail. Et j'aime beaucoup lire aussi. Voilà, donc je pas plein de choses que j'aime faire.
Ok, super. Et toi, comment tu t'es dirigée vers l'orthophonie? Qu'est-ce qui t'a donné envie?
Alors, c'est arrivé complètement au hasard, en fait. C'était complètement inattendu. En fait, ma grand-mère s'était cassé le genou et à l'hôpital, ils ont vu des prospectus sur l'orthophonie. Et c'était une période où en fait, j'avais raté complètement la PACES. C'était une catastrophe. Et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, en fait. J'étais complètement perdue à ce moment-là. Et quand ils ont trouvé le prospectus, ils me l'ont donné. Ils m'ont dit, oh là là, mais ça te ressemble un petit peu quand même. Et puis, je me suis dit, bah oui. J'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que ouais, c'est exactement ce que je cherchais en fait, et j'avais jamais pensé parce que j'ai jamais eu affaire à l'orthophonie en fait, hein, quand j'étais plus petite, j'en avais honnêtement jamais entendu parler avant de voir ce prospectus là. Et du coup, je me suis inscrite vraiment dernière minute quoi, c'était le 4 juillet, je crois que c'était la dernière date où on pouvait s'inscrire pour commencer une prépa. Ouais, voilà, c'est comme ça.
Ok, et donc tu as fait une prépa et après tu as eu les concours. Toi, c'était encore sur concours, c'était sur...
Ouais. Ouais, c'était sur les concours. Et j'ai fait un an de prépa et j'ai eu l'école de Nice. Donc, moi, ça m'allait très bien parce que c'était proche de chez moi. Donc, c'était parfait.
Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier, toi ?
Alors déjà, ce qui m'a plu en premier, c'est les études. Enfin, le contenu des études et ce qu'il y avait comme cours, comme matière, comme domaine qu'on allait étudier. Donc ça, déjà, c'était une bonne chose. Ensuite, c'est le fait que ça allie au niveau des compétences qu'on a au collège et au lycée, tout ce qui est scientifique et tout ce qui est littéraire, ça faisait une espèce de mélange. Et ça m'a embêtée parce qu'au lycée, vraiment, on me disait soit tu vas faire vraiment que des choses scientifiques, soit tu vas te lancer dans le littéraire, mais tu peux pas faire les deux. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, bah, ça, c'est super, parce que du coup, ça fait vraiment un mélange, en fait. Donc, ça me correspondait bien. Après, aussi le fait que c'est un métier qui est dans le domaine du soin, et ça, depuis un très long moment, je voulais absolument travailler dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine où on sent tous les matins quand on se lève qu'on va quand même être utile aux personnes qu'on va voir dans la journée, et c'est hyper gratifiant, je trouve. Il y a certains matins quand on se lève qu'on est un petit peu déprimé à l'idée de travailler, puis après on se dit, ouais, mais bon, je vais quand même aller rééduquer des patients, il y a plein d'enfants qui ont besoin, d'adultes qui ont besoin, c'est quand même un super moteur. Il y a aussi la diversité des pathologies prises en charge. Quand j'ai commencé, je ne savais même pas à quel point c'était étendu. C'est après que je m'en suis rendu compte, mais déjà, rien qu'au début, quand je me suis un petit peu renseignée, je me suis dit, waouh, il y a beaucoup de choses quand même. Hein. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, le fait que ce soit au contact de patients, parce que de toute façon, c'est ce qui est. C'est obligé dans le soin, hein, qu'on soit au contact des patients, mais il y a certains métiers dans le soin qui sont un petit peu plus de bureau, et là, c'est vraiment, on est avec les patients, quoi. C'est ça qui m'attirait aussi. Et puis après, il y a la liberté des horaires aussi. En libéral, on est quand même très très libre, on peut s'organiser, on peut organiser aussi le travail par rapport à notre vie, ce qui est quand même très rare. Et ne pas de rendre de compte à des patrons ou à des supérieurs.
Et ça, dès les études, tu savais que tu te dirigerais vers le libéral ou c'est arrivé petit à petit avec tes stages, les cours?
Ça, pour le coup, c'est venu très tôt parce que comme j'avais des jobs étudiants à côté de mes études, soit l'été, soit l'année, en fait, à chaque fois quand j'avais des chefs ou des comptes à rendre sur mon travail, en fait, je me rendais compte que si je pouvais ne pas avoir ça dans ma vie future, ce serait quand même super.
Oui.
Après, je pense que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui aiment bien être dirigées, avoir quelqu'un comment dire, qui cadre un petit peu le travail. Et puis d'autres personnes préfèrent cadrer elles-mêmes leur travail.
Ouais, et puis j'ai l'impression qu'il y a le fait aussi que quand tu es salarié, pas forcément en orthophonie, mais dans d'autres métiers, du coup, tu as un supérieur et qui est responsable. Et du coup, ça peut te déresponsabiliser, je vais y arriver, de certaines tâches, alors qu'en libéral, quand tu es tout seul, tout est de ta responsabilité, quoi.
C'est ça. En fait, il y a des points positifs et puis des points négatifs. C'est comme dans tout, hein. C'est vrai que des fois, on se sent en libéral, on se sent un petit peu comment submergé parce qu'on a tellement de choses dont on est responsable que si on fait une seule bêtise, c'est notre responsabilité complètement. Mais d'un autre côté, c'est bien de savoir qu'on en est responsable. En fait, c'est nous qui gérons tout et on ne doit pas de rendre de compte. Ça, c'est vraiment un luxe quand même.
Ouais, moi je suis
Et
d'accord avec
après.
toi. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que enfin, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir chapeauter un petit peu tous les aspects et tester, essayer des choses, dire ah bah cette fois je fais comme ça. Ah bah en fait ça n'a pas trop marché. Bon bah je vais essayer de faire autrement. Et au final, sans avoir la pression d'avoir quelqu'un derrière, une pression de résultat avec un patron ou une patronne, etc. Et je trouve ça vraiment confortable. Et j'ai l'impression aussi que sur plein d'aspects, ça nous aide à apprendre plus vite. Après, le salariat, c'est différent. Quand tu es spécialisé dans un domaine, tu vas apprendre plus vite sur ce domaine en particulier. Mais le libéral, comme tu es un peu touche à tout et dans tous les domaines, la rééducation, la gestion, etc., je trouve que ça t'apprend plein de choses, même pour la vie perso. Enfin, c'est hyper enrichissant parce que quand tu n'as pas le choix, tu y vas, quoi.
Clair. Même pour tout ce qui est administratif, c'est vrai que pendant mes études, j'avais un peu comme une espèce de phobie administrative. Je repoussais tout le temps les papiers à faire. Et en fait, en libéral, on est obligé de les faire. Donc, on n'a pas le choix. Ce qui fait que des fois, je me pose pour faire les papiers. Et puis, je me dis, bon, bah, tant qu'à faire, je fais les papiers perso aussi. Ce qui fait que je les fais, contrairement à avant où je ne les faisais pas. Ou alors, je les faisais très tard au dernier moment. Mais oui, c'est vrai que c'est très, très, c'est très formateur. Et surtout que. On sent qu'au fur et à mesure, on prend confiance sur plein de domaines. Et parce que, par exemple, des personnes qui commencent à travailler, qui sont super timides et qui n'osent pas forcément dire non, pas forcément s'imposer face aux patients, au bout d'un moment, on n'a pas le choix, en fait. On est
C'est
obligé
ça.
de le faire. Donc, comme on est obligé d'apprendre, on s'adapte et on développe des compétences. Donc, c'est vraiment trop bien.
Ouais, et puis je rebondis sur ce que tu dis là-dessus, apprendre à dire non, etc. Enfin, moi, c'était hyper compliqué et juste tu te rends compte au bout d'un moment que tu peux pas, quoi. Enfin, parce que bon, bah, quand tu as déjà augmenté ton amplitude horaire de 2 heures, bah, au bout d'un moment, ça passe plus, tu peux plus assumer. Et je trouve que ça facilite aussi dans la vie perso, réussir à dire non parce que tu te dis, bon, bah, je l'ai dit au travail, il s'est rien passé de grave. A priori, on a respecté ce que j'avais dit, donc je peux essayer de le faire dans la vie perso. Ah, bah, ça marche aussi, en fait, c'est chouette.
Oui, c'est clair. C'est clair. Mais après, il y a quand même un petit quelque chose qui peut se développer. C'est enfin, en tout cas, moi, l'habitude que j'ai prise, du coup, c'est de toujours dire maintenant non en première réponse et de dire après, mais bon, on va voir si ça peut se libérer ou quoi. Et du coup, maintenant, c'est vrai que j'ai tendance à dire très souvent non en première réponse.
T'aurais un exemple?
Un exemple. Ah oui, par exemple, j'ai un patient qui a dû décaler un de ses rendez-vous
Oui.
parce qu'il avait une activité scolaire et franchement c'était un truc super cool. Il pouvait faire je crois, du catamaran avec l'école et je lui ai dit bah, c'est trop dommage si tu peux pas faire le catamaran juste à cause des séances. Et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a décalé la séance, mais après j'ai dit à la mère que a priori j'essayais de lui garder le créneau libre, c'est-à-dire de mettre des personnes que je déplaçais en fait sur son créneau et qu'après si c'était possible il récupérait le créneau initial. Mais quand elle m'a demandé si c'était possible de lui garder, je lui ai dit a priori non. Mais si c'est faisable, je le ferai. Je ferai mon possible pour que ce soit réalisable, mais rien n'est sûr en fait. C'est-à-dire
D'accord,
que je préfère dire non en première réponse et puis après essayer de trouver une solution pour le faire quand même, plutôt que de dire oui directement. Parce que c'est vrai que au tout début, quand je me suis installée, que j'arrivais pas trop à dire non, c'est vrai que des fois je me retrouvais avec des situations un peu compliquées, avec des gros trous dans la journée ou des horaires qui ne me convenaient pas du tout au final. juste pour que les patients puissent venir quand même et que ça les arrange. Donc ça, c'est quelque chose qui vient avec le temps, quoi.
Et au final, j'ai l'impression que là, ce que tu nous dis, c'est pas forcément un non-non, c'est plutôt un non-mais.
Ouais, c'est ça.
Et le fait qu'il y ait, enfin, c'est une question, je me demande, le fait qu'il y ait le mais après, est-ce que t'as pas l'impression que du coup, les patients se disent, ah, bon, bah, il y a toujours moyen de négocier, je me demande.
En général, ils négocient jamais, donc je pense que peut-être que dans ma manière de dire les choses, ça doit leur sous-entendre qu'il n'y a pas de négociation possible, que juste moi je vais faire mon possible. Si c'est faisable, je le fais, et si c'est pas possible, je le fais pas. Mais c'est plus par rapport aux patients qui, la plupart du temps, en fait, les patients qui sont très corrects, qui sont arrangeants la plupart du temps, quand eux ont une, comment dire, quelque chose qui pourrait leur rendre les choses plus pratiques. À ce moment-là, j'essaye toujours d'être sympa avec eux parce que ceux qui sont tout le temps à exiger des choses, et pour le coup, là, on n'a pas trop envie forcément d'être arrangeante, mais pour les patients qui sont très corrects, franchement, il n'y a pas de souci. Je fais en sorte que chacun fasse une partie du chemin, quoi.
Ouais, ok. Et donc pendant les études, est-ce que toi, dans ton centre de formation, vous faisiez des stages recherche, des choses comme ça?
Oui. Oui, on faisait des stages recherche. Alors moi, j'ai fait mon stage recherche, c'était à Sofia Antipolis au labo Coptech. C'était en fait, pendant le stage, ce qu'on a fait, c'est qu'ils nous ont montré un petit peu quelques petites réunions. On n'a pas forcément tout compris, c'était vraiment très très compliqué parce que c'était beaucoup en anglais. Et là où j'ai fait mon stage, en fait, c'était un service sur le big data, donc. C'est vraiment très compliqué ce qui est développé. Et puis surtout qu'on a vu aussi une thèse qui a été développée. C'était au début, on comprenait, sur la fin, c'était quand même très, 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 très compliqué. Et après, en fait, on avait une tâche qui était d'implémenter, en fait, enfin, d'annoter des vidéos pour implémenter un logiciel. Et c'est un logiciel qui détecte les chutes dans les domiciles de personnes âgées. On est en train d'essayer de développer ça. C'est-à-dire que des personnes derrière des ordinateurs regardent les vidéos et annotent les gestes qui sont faits par la personne. Et ensuite, donc ces informations-là sont rentrées sur le logiciel. Et après, c'est au logiciel de s'entraîner à reconnaître les actions des personnes pour pouvoir détecter des chutes ou alors des blessures.
Ok, merci de nous avoir partagé ça, Audrey. Tu m'avais contactée parce que tu as rédigé un mémoire sur un thème assez particulier qu'on ne voit pas beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Bien sûr. Alors en fait, mon mémoire, c'était sur l'estime de soi. Et plus précisément, on a mis en place un questionnaire d'estime de soi, enfin, d'évaluation de l'estime de soi. Et comme c'était, il n'y a pas trop eu de recherches qui avaient été faites avant sur ce sujet-là en France, on a ciblé une population précise. Donc là, c'était des élèves de CM1, CM2. Et on a voulu au moins faire un test, en fait, mettre en place un questionnaire, puis tester ce questionnaire. Pour voir est-ce qu'il y a une nécessité en fait à mettre en place ce genre de questionnaire, parce que bon, si ça servait à rien pour le coup, ça aurait été un peu inutile. Et c'était de voir si les enfants dyslexiques ont une estime de soi qui est plus basse que celle des enfants normolecteurs. Et ensuite, à l'issue du mémoire, le but c'était comment dire, de développer ce questionnaire pour ensuite pouvoir être utilisé par des orthophonistes. Donc
Et
là,
qu'est-ce que vous avez eu comme résultat de cette étude?
Alors on a passé le questionnaire, donc il y avait les résultats du total du questionnaire, et en fait le questionnaire il est divisé en différentes dimensions, et donc on avait le résultat pour chaque dimension et le résultat total pour les enfants qui étaient donc en école, qui étaient normolecteurs, et les patients dyslexiques, et on a trouvé une différence significative sur la totalité du questionnaire et aussi sur certains domaines. Donc c'était surtout le domaine scolaire, le
D'accord, ouais.
Et dans d'autres domaines, c'était plus ou moins visible, mais en tout cas, pour le score total du questionnaire, il y avait une différence significative.
D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire, enfin, peut nous définir l'estime de soi, puisque c'est peut-être pas très clair pour tout le monde.
C'est vrai que c'est souvent un petit peu compliqué parce que l'estime de soi, en fait, il y a beaucoup d'ouvrages qu'on trouve dans les commerces, et au final, c'est pas toujours référencé. Avec des articles scientifiques, quoi. C'est souvent un peu des, comment dire, on va dire vulgairement, des ouvrages de blabla un peu.
Ouais.
Et certains psychologues, c'est pas forcément toujours très bien documenté.
D'accord.
Du coup, l'estime de soi, c'est la manière dont chaque personne va se percevoir et comment elle se perçoit vis-à-vis des autres. C'est une
OK.
espèce de synthèse de toutes les caractéristiques qu'une personne pense qu'elle a et qui est conscientisée par la personne, en fait.
Ah, tu
Et
vois, je pensais pas qu'il y avait cet aspect de vis-à-vis des autres. Je pensais que c'était vraiment intrinsèque à la personne. OK.
en fait, c'est en gros, ça prend en compte plusieurs informations, c'est-à-dire par exemple, quand on va se définir en tant que personne, on va avoir les informations sur soi, les compétences, comment on se sent par exemple au niveau du sport, au niveau du physique, au niveau scolaire, au niveau social, comportemental. Et puis après, on prend aussi en compte la perception des autres vis-à-vis de nous, mais pas, je sais pas, on va demander aux autres l'avis qu'ils ont sur nous, c'est-à-dire qu'on va prendre ce qu'on pense que les gens pensent de nous pour l'intégrer dans ça, dans l'estime de soi.
Ok.
Et ça va être de la comparaison aussi, c'est-à-dire que on va comparer ce que les autres, ce qu'ils pensent de nous, avec ce que nous on pense de nous. Et en fait, c'est vraiment très très riche comme concept, hein. Et après, c'est aussi la comparaison en fait entre le niveau qu'on a dans un domaine et l'importance qu'on lui accorde. C'est-à-dire que par exemple, si on est très fort en mathématiques, mais que on n'accorde pas forcément une grande importance à ce domaine, ça va plutôt faire baisser le niveau d'estime de soi.
Ah,
Donc, il y a
d'accord.
aussi l'importance de donner en fait une plus grande importance aux domaines dans lesquels on a des bonnes compétences.
Ok.
Et
Je
donc, c'est ce que.
pensais, par exemple, pour des collégiens, tu vois, avec des matières comme par exemple la musique, où tu vois, t'as que, je crois que c'est 2 heures de cours, un truc comme ça par semaine. Par exemple, quelqu'un qui serait super bon en musique, très bon musicien. Potentiellement, peut-être qu'on y accorde moins d'importance que comme des matières comme français, maths, histoire, géo, des trucs comme ça. Et donc, du coup, ça pourrait impacter son estime de lui.
Exactement. Ça,
D'accord.
mais pas nécessairement, ça va vraiment dépendre des enfants, parce que par exemple, un
Oui.
enfant qui va être doué en musique et par exemple qui fait aussi de la musique en dehors des cours, c'est pas tant l'importance que la société donne à la musique, mais l'importance que lui, que l'enfant va ou l'adolescent va donner à la musique. Et si pour lui, par exemple, c'est très très valorisé d'avoir des compétences en musique et que c'est important pour lui, ça peut l'aider à avoir une meilleure estime de soi que, par exemple, si en français, il a des compétences qui sont un petit peu moins importantes. Mais si pour lui, c'est pas forcément le plus important d'être fort en français, que par exemple, il se projette dans la musique, qu'il aimerait travailler dans le domaine de la musique plus tard, ça peut quand même l'aider à avoir une bonne estime de soi.
Et il n'y a pas de corrélation entre ce que la société estime comme important et au final ce que les enfants estiment comme important?
Souvent. Et encore une fois, ça va dépendre vraiment des enfants. Je pense qu'il y a certains enfants qui réfléchissent beaucoup plus à ces choses-là et qui, du coup, vont peut-être trouver des solutions. C'est-à-dire, par exemple, des enfants qui sont pas forts du tout en sport et qui vont se dire, bah, c'est pas grave, le sport, c'est pas important. D'autres,
Ah.
ça va être trop dur, en fait, parce que le sport à l'école, quand on n'est pas fort en sport, c'est compliqué, quoi. C'est hyper valorisé. Et autant, en plus, nos patients, c'est encore pire parce que nos patients, pour eux, les compétences qu'ils n'ont pas ou qu'ils ont moins que leurs camarades, c'est hyper dur en fait. Ils n'arrivent pas du tout à se dire non, non, mais même si je suis pas fort en français, c'est pas grave, il y a d'autres domaines où je suis super fort. Et nous, en orthophoniste, on est aussi un peu là pour ça, pour leur donner confiance en eux et pour les rebooster, quoi.
Ok, donc ouais, déjà c'est hyper intéressant de voir que il y a eu des différences significatives, comme ça on peut garder ça en tête pour les patients. Et alors, qu'est-ce que du coup vous en avez fait de ce questionnaire? Qu'est-ce qu'il advient de ton travail maintenant? Est-ce que ça va être généralisé à d'autres tranches d'âge, à d'autres pathologies?
Oui, alors déjà, donc j'ai fait mon mémoire, c'était en 2021, et en 2022, il y a un mémoire qui a été poursuivi en fait sur ce sujet-là. Moi, j'avais passé fait mes tests dans des écoles et j'avais quelques patients dyslexiques. Et l'année d'après, donc c'est deux étudiantes de Paris qui ont repris le mémoire et qui ont continué. Et elles ont continué en fait sur plus d'enfants et elles sont ciblées chacune une classe d'âge, donc une CM1, une CM2. Ce qui a fait qu'on avait un plus gros échantillon qui a confirmé les résultats. Et après, à la suite de ces deux mémoires, en ce moment, l'équipe de Eddie Cavalli, qui travaille à l'Université de Lyon Lumière, est en train de travailler là-dessus. avec Gilles Leloup et Élise Lefebvre, qui est en postdoc à Rennes et qui s'occupe des statistiques. Techniquement, en 2024, ils devraient pouvoir sortir un questionnaire avec les normes sur toute la population. Au niveau des tranches d'âge, ça risque de rester dans l'âge scolaire. Donc, pour généraliser sur tous les âges, c'est vrai que ce serait un peu plus compliqué, je pense.
Oui. Âge scolaire, ça comprend collège et lycée pour toi ou c'est que maternelle, primaire?
Il me semble qu'ils sont sur le primaire
Primaire,
en ce moment.
ok. D'accord. Ok, donc c'est un projet qui continue à vivre alors. Et tu nous parlais de ce questionnaire. En quoi il consiste ce questionnaire?
Alors, c'est un questionnaire qui est assez long. Il est divisé par dimensions, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, en fait, les dimensions, on a scolaire, pardon, social, physique, sportif, comportemental, global et l'importance des domaines. Donc, il y a pas mal d'items. Il y en a une quarantaine. Donc, c'est un petit peu long. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs items souvent qui reviennent, en fait, des questions qui sont similaires pour vérifier si déjà l'enfant est cohérent dans ses réponses. S'il y a deux questions qui se ressemblent et qui donnent deux réponses différentes, par exemple, ça peut être un biais parfois. Donc, ça permet de vérifier ce biais-là. Et après, le questionnaire, donc il est passé en séance avec le patient. Et ensuite, c'est intéressant de pouvoir repasser dessus pour essayer de discuter des questions où l'enfant a peut-être détaillé des difficultés, où il a peut-être hésité pour certaines réponses. C'est plus du qualitatif pour l'instant, en fait, tant que le questionnaire sera pas vraiment sorti.
Ouais. Et toi, tu recommandes de l'utiliser quand, ce questionnaire, dès le bilan ou pendant une prise en charge?
Alors, de ce que j'ai vu pour l'instant, pour moi, l'idéal, c'est de l'utiliser une fois qu'on connaît un petit peu l'enfant.
Ok.
Parce qu'il y a certains enfants, honnêtement, on sent tout de suite qu'ils ont une bonne estime de soi, qu'ils ont pas
Ouais.
vraiment, ils ont bien confiance, ils font leurs entraînements régulièrement, ils ont confiance quand ils viennent, ils voient leur progrès, ils sont contents. Et plus ceux qui sont au début très timides ou un petit peu qui manquent de confiance en eux, à ce moment-là, d'attendre quelques temps et puis de le passer. Et au moment où on passe le questionnaire, l'intérêt, c'est vraiment de passer un long moment sur pourquoi il a répondu à certains items en disant que pour le coup, c'était difficile pour lui. Qu'est-ce que ça peut cacher derrière? Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour avoir un peu plus confiance en lui, pour l'aider à se sentir mieux?
Et toi, t'as fait des propositions justement de ce qui peut être mis en place si on voit que un enfant justement a des difficultés sur l'estime de lui?
Déjà, ce qui est bien, c'est un petit peu de lui expliquer comment ça fonctionne, l'estime de soi, quels sont les différents domaines, la notion aussi de l'importance qu'on accorde à chaque domaine en fonction de ses compétences. Donc déjà, lui expliquer un peu comme de l'éducation thérapeutique, en fait. Et une fois qu'on a expliqué tout ça, de passer du temps avec lui pour lui donner des solutions concrètes du style, par exemple, dans telle matière, il est un petit peu plus de difficultés, donc ce serait bien s'il pouvait y accorder un petit peu moins d'importance, même si c'est pas complètement le mettre de côté. Mais par exemple, j'ai un patient qui est très fort en sport et qui, comme il est dyslexique, a vraiment des grosses difficultés en cours de français et surtout pour tout ce qui est rédactionnel. Ce qui est bien, c'est que lui avait déjà conscientisé ça et il m'avait dit, pour moi, le sport, c'est super important. Et il avait mis comme compétence qu'il avait de très bonnes compétences en sport. Et à l'inverse, pour le français, il avait mis qu'il n'avait pas de très bonnes compétences et que c'était pas quasiment presque pas important pour lui.
OK.
C'était pas quelque chose qui était vraiment enfin, primordial pour lui.
Ouais. OK, super intéressant. Et donc toi, est-ce que tu l'utilises ce questionnaire avec tous tes patients ou avec les patients de la tranche d'âge que vous avez étalonné pour l'instant?
Alors, je l'ai utilisé avec des patients qui étaient dans la tranche d'âge. Et je l'ai utilisé avec quelques patients qui étaient un petit peu plus âgés. Le plus âgé avait 17 ans, si je ne me trompe pas.
Oui.
Après, j'utilise mon questionnaire, mais j'utilise aussi des questionnaires qui ont été validés. Donc, c'est des questionnaires qui sont canadiens de base. Donc, ils ont été juste traduits.
D'accord.
Mais après, ça peut être intéressant parce qu'il y en a certains avec des graphiques où on peut, comment dire? On peut indiquer l'importance du domaine d'une couleur et puis les compétences dans le domaine d'une autre couleur. Ça, c'est bien visuel. Et les autres questionnaires, ils sont super bien aussi, mais le seul inconvénient, c'est qu'ils ont été conçus dans d'autres pays, sur d'autres populations, avec des normes sur une autre population. Donc, d'accord. C'est moins représentatif qu'un questionnaire français, quoi.
Ok. Et qu'est-ce que tu as observé à la suite quand tu as fait passer ces questionnaires? Est-ce que tu as vu une différence sur l'état de ton patient ou sur toi, la rééducation que tu mettais en place?
La différence que j'ai vue, c'est qu'ils ont vraiment pris confiance en eux de plus en plus. Et que ça leur fait faire vraiment des gros progrès sur une courte durée. C'est-à-dire que souvent, on peut se retrouver à un moment où on stagne un petit peu dans la rééducation quand ça fait un certain nombre de mois que commence un petit peu à en avoir marre de devoir faire les entraînements, de venir toutes les semaines. Quand on fait ça, en fait, des gens leur donnent un petit peu confiance en eux, ce qui fait qu'ils font des progrès. Donc, on a un petit pic de progrès. Et derrière ce pic de progrès, ça les remotive pour la rééducation, ça les remotive pour les entraînements, pour le fait de venir aussi, de venir en séance. Pour l'instant, en tout cas, j'ai vu des effets à chaque fois.
Ouais, ok. Bah déjà, c'est chouette. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais? Enfin, après, je ne sais pas, est-ce que tu continues à travailler, toi, sur cet outil ou maintenant il est repris dans d'autres mémoires, sur d'autres thèmes de recherche? Toi, tu continues à t'investir dedans ou pas?
Alors beaucoup moins, mais je sais que mes deux directeurs de mémoire, c'est eux qui gèrent la suite.
Ok.
Donc ils m'informent régulièrement de ce qui se passe. Donc je suis quand même informée, même si je suis plus impliquée autant qu'avant. Après, est-ce qu'il a été utilisé dans d'autres mémoires? Je crois pas à ma connaissance en tout cas. Mais
Oui.
je sais qu'il a été utilisé par certaines de mes camarades de promo. Qui m'ont demandé souvent si je pouvais leur envoyer le questionnaire en fait pour l'utiliser avec des patients. Donc ça, c'est quand même
Oui.
super cool. Ça m'a fait
C'est
trop
clair.
plaisir.
Tu m'étonnes. Et justement, on le mettra dans la description du podcast. Comme ça, si les personnes veulent y accéder, ça sera possible. C'est sous quel format? C'est un PDF? C'est quelque chose comme ça?
Oui, c'est un PDF.
Ok. Nickel. Eh bien, parfait. Comme ça, tout le monde pourra y accéder. J'aurais voulu te demander, comme ça fait pas très longtemps que tu travailles, est-ce que y a des choses que tu as eu du mal à mettre en place, par exemple, vis-à-vis du questionnaire, tu vois, de proposer le questionnaire, est-ce que tu avais l'impression que c'était plus dur au début, plus facile maintenant? Est-ce que tu as remarqué des différences?
C'est dur comme question.
Ouais.
Est-ce que j'ai vu des différences? C'est difficile à dire parce qu'en fait, quand je suis sortie des études et que j'ai commencé à travailler, c'était frais en fait le questionnaire. Donc c'était entre guillemets plus facile d'en parler avec les patients et puis de l'utiliser parce qu'en fait, je l'avais fait à la chaîne. J'ai fait les passations de mémoire, c'était pendant une semaine tous les jours. J'allais à l'école et je faisais passer à une trentaine d'enfants à chaque fois. Donc, c'était plus facile, on va dire, au tout début. Peut-être qu'après, il y a eu une période où c'était un peu plus compliqué d'être bien clair sur ces notions-là. Mais après, je pense, au fur et à mesure des mois, en fait, on prend aussi confiance en nous, dans les choses qu'on va dire aux patients, à leurs parents, les explications qu'on donne. On a un peu plus confiance, donc je pense que maintenant, ça doit être un peu plus évident.
Oui. Et je me demandais, est-ce que tu te l'es fait passer à toi-même, le questionnaire?
Ouais, je l'avais testé quand ben, je crois que c'était avant la fin de la cinquième année, j'avais dû me le faire
Oui.
passer.
Est-ce que tu veux bien nous partager ce que tu avais obtenu ou est-ce que c'est secret?
Non, bien sûr. En fait, j'avais une estime de moi qui était plutôt moyenne.
Oui.
C'était ni trop, ni bas, ni élevé.
Sur tous les domaines ou pas?
Oui, c'était à peu près constant, il me semble, parce que je pense que si je l'avais passé quand j'étais en primaire ou au collège sportif, ça aurait été une catastrophe. J'étais pas du tout sportive, mais pendant mes études, j'ai repris vraiment énormément le sport. Donc, c'est
D'accord.
quelque chose qui, pour le coup, ça, je sais que si je l'avais passé en primaire, ça aurait été une catastrophe.
Oui.
Mais non, en fait, ça allait. Globalement, ça allait parce que c'est vraiment quand on commence à être un petit peu en accord avec soi-même, on a des résultats qui sont plutôt dans la moyenne, en fait.
Oui.
Donc, quand on fait les études, c'est vrai qu'en études d'orthophonie, on a vraiment beaucoup de challenges. C'est quand même pas des études qui sont faciles et qui sont reposantes. Donc souvent, on est obligé d'avoir des mécanismes un peu de défense, de se défendre soi-même au niveau de l'intégrité psychologique, je veux dire. On met en place des choses pour se sentir un petit peu mieux dans sa peau, je pense. Et ça a aidé, je pense, au niveau du questionnaire.
Ouais. Est-ce que tu as l'impression que tu aurais répondu la même chose au début des études et à la fin, si tu l'avais passé au
Pas du tout.
début?
Pas du tout. Au début des études, je pense, fin des études, ça aurait été, c'était différent. Et puis même maintenant, je pense que ce serait encore différent.
Ouais.
C'est quelque chose qui évolue, en fait. L'estime de soi, ça commence à se développer dès les premiers mois de vie. C'est quand
Ah,
l'enfant prend
d'accord.
conscience de lui-même, en fait. Et puis après, ça se développe toute la vie. Et je pense qu'il y a même des personnes qui, une fois qu'elles ont atteint l'âge adulte avec une situation stable, un travail qui ne va pas forcément beaucoup changer, ça varie quand même. Ça ne peut jamais rester exactement pareil.
Ouais, ok. Est-ce que ça t'a fait changer des choses d'avoir passé ce questionnaire? Est-ce que ta vision des choses a changé ou pas?
Oui, carrément. Déjà, la vision des choses par rapport à soi et la vision des choses par rapport aux autres, parce qu'on se rend compte que déjà, chaque petite chose positive, en fait, ça peut influencer la journée, le quotidien, et que ce soit en fait pour soi ou pour les autres. C'est-à-dire que, par exemple, on voit une amie, puis on voit qu'elle s'est fait une tresse, et d'habitude, elle laisse les cheveux lâcher parce qu'elle ne sait pas forcément trop se coiffer. Et là, on lui dit, bon, bah, c'est super beau ta tresse, ça te va trop bien. Et puis après, elle est contente toute la journée. Donc,
Oui.
c'est des petites choses, mais ça aide à se sentir mieux en fait dans la globalité du soi.
Est-ce que tu conseilles aux auditeurs, aux auditrices de se faire passer eux-mêmes le questionnaire et de le proposer ensuite aux patients?
Ça peut être une bonne chose. Après, je pense que ce qui est encore mieux, ce serait par exemple avec un collègue ou une collègue ou un ami qui travaille dans un domaine qui ressemble un petit peu, de se le faire passer mutuellement et puis de pouvoir en discuter après. Avec quelqu'un de confiance, avec quelqu'un à qui on peut s'ouvrir un petit peu, quoi.
Ouais. Bon, bah super, tu es en train de créer des binômes pour se faire passer le questionnaire. Et ben, en tout cas, merci Audrey pour ce que tu as partagé. C'était hyper intéressant de voir tout cet aspect de l'estime de soi. On va arriver à la dernière question du podcast. Toi qui as la parole aujourd'hui, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et aux auditrices?
Alors, c'est important ça comme question. Un message que j'aimerais faire passer, je pense que ce serait de dire que l'estime de soi, c'est important autant pour nos patients que pour nous en tant qu'ortho, que souvent on se retrouve avec un peu un syndrome de l'imposteur, que on se pose beaucoup de questions, nous on soigne les autres, mais qu'on ne se soigne pas forcément nous-mêmes, et que du coup c'est super important déjà de penser à soi, des choses qui peuvent nous faire du bien, et penser aussi aux autres, de nos collègues, notre entourage, tout ça, et d'essayer de booster un petit peu leur estime de soi aussi en faisant des compliments, des paroles positives, des choses comme ça, histoire que tout le monde dans le quotidien se soit un petit peu plus positif.
Eh bien, super. Merci pour ces jolis messages, Audrey. On met toutes les informations dans la description du podcast. Et un grand merci d'être venue parler de l'estime de soi chez La Parole aux orthophonistes.
Merci beaucoup à toi.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. Ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à La Parole aux orthophonistes.